Alexandre Dumas, crime célèbre. Marie Stuart. Il y a pour les rois des noms prédestinés à la mauvaise fortune. En France, c'est le nom de Henri. Henri Ier fut empoisonné, Henri II fut tué dans un tournoi, Henri III et Henri IV furent assassinés. Quant à Henri V, pour qui le passé est déjà si fatal, Dieu sait ce que lui garde l'avenir. En Écosse, c'est le nom de Stuart. Robert Ier, chef de la race, mourut à 28 ans d'une maladie de langueur. Robert II, le plus heureux de la famille, fut forcé de passer une partie de sa vie, non seulement dans la retraite, mais encore dans l'obscurité, à cause d'une inflammation des yeux qui les lui faisait rouges comme du sang. Robert III succomba au chagrin que lui causa la mort d'un de ses fils et la captivité de l'autre. Jacques Ier fut poignardé par Graham dans l'abbaye des moines noirs de Perse. Jacques II fut tué au siège de Rosbourg par l'éclat d'une pièce de canon qui creva. Jacques III fut assassiné par un inconnu dans un moulin où il s'était réfugié pendant la bataille de Sauchy. Jacques IV, frappé de deux flèches et d'un coup de hallebarde, tomba au milieu de sa noblesse sur le champ de bataille de Flodden. Jacques V mourut du chagrin d'avoir perdu ses deux fils et du remords d'avoir fait exécuter Hamilton. Jacques VI, prédestiné à réunir sur sa tête les deux couronnes d'Écosse et d'Angleterre, fils d'un père assassiné, traîna une vie triste et craintive entre l'échafaud de sa mère, Marie Stuart, et celui de son fils, Charles Ier. Charles II passa une partie de sa vie en exil. Jacques II y mourut. Le chevalier de Saint-Georges, après avoir été proclamé roi d'Écosse sous le nom de Jacques VIII et d'Angleterre et d'Irlande sous celui de Jacques III, fut obligé de fuir sans avoir pu donner à ses armes l'éclat même d'une défaite. Charles-Édouard, son fils, après les chauffourées de Derby et la bataille de Culloden, traqué de montagne en montagne, poursuivi de roche en roche, nageant de rivage en rivage, recueilli à demi nu par un vaisseau français, s'en alla mourir à Florence sans que jamais les cours de l'Europe aient voulu le reconnaître pour souverain. Enfin, son frère Henri Benoît, le dernier héritier des Stuarts, après avoir vécu d'une pension de 3 000 livres sterling que lui faisait le roi Georges III, expira complètement oublié, élégante à la maison de Hanovre tous les joyaux de la couronne que Jacques II avait emportés en passant sur le continent en 1688, tardive mais entière reconnaissance de la légitimité de la famille qui avait succédé à la sienne. Au milieu de cette race malheureuse, Marie Stuart fut la privilégiée du malheur. Aussi Brantôme a dit d'elle « Ceux qui voudront écrire sur cette illustre reine d'Écosse en ont deux très amples sujets. L'un celui de sa vie et l'autre celui de sa mort. C'est qu'aussi Brantôme l'avait connue dans une des circonstances les plus douloureuses de sa vie, c'est-à-dire au moment où elle quittait la France pour l'Écosse. Ce fut le 9 août 1561, après avoir perdu sa mère et son époux dans la même année, que Marie Stuart, douairière de France et reine d'Écosse à 19 ans, conduite par les cardinaux de Guise et de Lorraine, ses oncles, par le duc et la duchesse de Guise, par le duc d'Aumale et monsieur de Nemours, arriva à Calais, où l'attendaient pour la ramener en Écosse deux galères, l'une sous les ordres de monsieur de Mévillon et l'autre sous le commandement du capitaine Albize. Elle resta 6 jours dans cette ville. Enfin, le 15 du même mois, après les plus tristes adieux à sa famille, accompagnée de messieurs d'Aumale, d'Elbeuf et d'Anville, avec force noblesse parmi laquelle étaient Brantôme et Châtelard, elle s'embarqua sur la galère de monsieur Mévillon, qui reçut aussitôt l'ordre de pousser au large, ce qu'elle fit à l'aide de ses rames, le vent n'étant point assez fort pour qu'on pût se servir des voiles. Marie Stuart était alors dans toute la fleur de sa beauté, plus brillante encore sous ses vêtements de deuil, beauté si merveilleuse qu'elle répandait autour d'elle un charme auquel pas un de ceux à qui elle voulut plaire n'échappa et qui fut fatal à presque tous. Aussi avait-on fait vers cette époque une chanson sur elle qui, de l'aveu même de ses rivales, ne contenait que la vérité. Elle était, disait-on, de monsieur de Maisonfleur, gentil cavalier pour les lettres et pour les armes. La voici. L'on voit sous blanc à Tours, en grand deuil et tristesse, se promenait maint tour de beauté la déesse, tenant le trait en main de son fils inhumain, et l'amour sans frontaux voleter autour d'elle. Déguisant son bandeau sous un funèbre voile, où sont ces mots écrits « Mourir ou être pris ». Or, en ce moment, Marie Stuart, vêtue de son grand deuil blanc, était plus belle que jamais, car de grosses larmes coulaient silencieusement de ses yeux, tandis que, secouant un mouchoir de la main, debout sur le gaillard d'arrière, elle saluait, elle qui avait si grande douleur de partir, ceux qui avaient si grande douleur de rester. Enfin, au bout d'une demi-heure, on sortit du port et l'on se trouva en pleine mer. Tout à coup, Marie entendit de grands cris derrière elle. Un bâtiment qui arrivait à pleine voile avait, par l'ignorance du pilote, touché contre un rocher, de sorte qu'il s'était ouvert, et après avoir tremblé et gémi un instant comme un homme blessé, il commençait à s'engloutir au milieu des hurlements de tout son équipage. Marie, épouvantée, pâle, muette et immobile, le regarda s'enfoncer graduellement dans la mer, tandis que le malheureux équipage, à mesure que la carène disparaissait, montait dans les vergues et dans les haubans afin de retarder son agonie de quelques minutes. Enfin, carène, vergue, mât, tout s'engouffra dans la gueule béante de l'océan. On vit surnager un instant quelques points noirs qui disparurent à leur tour les uns après les autres, puis le flot poussa le flot, et les spectateurs de cet horrible drame, voyant l'océan calme et solitaire comme si rien ne s'était passé, se demandèrent si ce n'était pas une vision qui leur était apparue, et puis s'étaient évanouis. « Hélas ! » s'écria Marie en se laissant tomber assise et en appuyant ses deux bras sur la poupe de la galère. « Quel triste augure pour un si triste voyage !» Puis, fixant de nouveau vers le port, qui commençait à s'éloigner, ses yeux séchés un instant par la terreur et qui se mouillèrent de nouveau. « Adieu, France » murmura-t-elle. « Adieu, France !» Et pendant 5 heures, elle resta ainsi, pleurant et murmurant. « Adieu, France ! Adieu, France !» L'obscurité vint qu'elle se lamentait encore. Et alors, comme les objets s'effaçaient et qu'on l'appelait pour souper, « C'est bien maintenant, ma chère France, dit-elle en se levant, que je vous perds réellement, puisque la nuit jalouse met deuil sur deuil en jetant un voile noir devant mes yeux. Adieu donc une dernière fois, ma chère France, car jamais je ne vous verrai plus. » À ces mots, elle descendit, disant qu'elle était tout au contraire de Didon, qui, après le départ d'Aîné, n'avait plus fait que regarder les flots, tandis qu'elle, Marie, ne pouvait détacher ses regards de la terre. Alors tous firent cercle autour d'elle pour essayer de la distraire et de la consoler. Mais elle, toujours plus triste, ne pouvant répondre tant ses larmes l'étouffaient, mangea à peine. Et se faisant dresser un lit dans la traverse de la poupe, elle fit venir le timonier et lui ordonna, s'il voyait encore la terre au point du jour, de venir la réveiller aussitôt. Et sur ce point, Marie fut favorisée, car le vent ayant calmé, la galère, lorsque revint le jour, se trouva encore en vue de la France. Ce fut une grande joie pour Marie, lorsque, réveillée par le timonier qui n'avait point oublié l'ordre reçu, elle se leva sur son lit et, à travers la fenêtre qu'elle fit ouvrir, revit une fois encore ce rivage bien-aimé. Mais sur les 5 heures du matin, le vent ayant fraîchi, la galère s'éloigna rapidement, de sorte que bientôt la terre disparut tout à fait. Alors Marie retomba sur son lit, pâle comme si elle était morte, et murmurant encore une fois « Adieu, France, je ne te verrai plus !» En effet, c'était dans cette France qu'elle regrettait tant que venaient de s'écouler les plus belles années de sa vie. Née au milieu des premiers troubles de religion, près du lit de son père mourant, le deuil du berceau devait s'étendre pour elle jusqu'à la tombe, et son séjour en France avait été un rayon de soleil dans la nuit. Calomniée dès sa naissance, le bruit s'était si généralement répandu qu'elle était mal conformée et qu'elle ne pouvait vivre qu'un jour. Sa mère, Marie de Guise, lassée de ses faux rapports, la débarrassa de ses langes et la montra nue à l'ambassadeur d'Angleterre qui venait, de la part de Henri VIII, la demander en mariage pour le prince de Galles, qui n'avait lui-même que 5 ans. Couronnée à 9 mois par le cardinal Beaton, archevêque de Saint-André, elle fut enfermée aussitôt par sa mère, qui craignait pour elle quelque perfidie du roi d'Angleterre dans le château de Stirling. 2 ans après, ne trouvant pas que cette forteresse lui présentât encore assez de sûreté, elle la transporta dans une île, au milieu du lac Mentes, où un monastère, seul édifice qui exista dans ce lieu, servit d'asile à l'enfant royal et à 4 jeunes filles, nées la même année qu'elle, portant comme elle le doux nom qui est l'anagramme du mot « aimer » et qui, ne devant la quitter dans sa bonne ni dans sa mauvaise fortune, étaient appelées les maris de la reine. C'était Mary Livingstone, Mary Fleming, Mary Seton et Mary Bethune. Elle resta dans ce monastère jusqu'à l'époque où le Parlement, ayant approuvé son mariage avec le dauphin de France, fils de Henri II, elle fut conduite au château de Dumbarton pour y attendre le moment de son départ. C'est là qu'elle fut remise à M. de Brézé, qui venait la chercher de la part de Henri II. Partie sur les galères françaises mouillées à l'embouchure de la Clyde, Marie, après avoir été vivement poursuivie par la flotte anglaise, entra le 15 août 1548 dans le port de Brest, un an après la mort de François Ier. Outre les 4 maris de la reine, les vaisseaux amenaient encore en France 3 de ses frères naturels, parmi lesquels était le prieur de Saint-André, Jacques Stuart, qui devait plus tard abjurer la foi catholique, et, avec le titre de régent du royaume et sous le nom de comte de Muret, devenir si fatal à la pauvre Marie. De Brest, Marie se rendit à Saint-Germain-en-Laye, où Henri II, qui venait de monter sur le trône, la combla de caresses, puis l'envoya dans un couvent où étaient élevées les héritières des plus nobles maisons de France. Là, les heureuses dispositions de Marie se développèrent. Née avec le cœur d'une femme et la tête d'un homme, Marie acquit non seulement tous les talents d'agrément qui constituaient l'éducation d'une future reine, mais encore les sciences positives qui sont le complément de celles d'un habile docteur. Aussi, à l'âge de 14 ans, elle prononça dans une salle du Louvre, devant Henri II, Catherine de Médicis et toute la cour, un discours latin de sa composition, dans lequel elle soutenait qu'il sied bien aux femmes de cultiver les lettres et que c'est une injustice et une tyrannie que d'ôter aux fleurs leur parfum, en reléguant ainsi les jeunes filles dans les soins de leur intérieur. On comprend de quelle manière une future reine, soutenant une pareille thèse, dut être accueillie dans la cour la plus lettrée et la plus pédante de l'Europe. Entre la littérature de Rabelais et de Marot, touchant à son déclin, et celle de Ronsard et de Montaigne, qui marchaient à leur apogée, Marie devint reine de poésie, trop heureuse qu'elle eût été de ne jamais porter d'autre couronne que celle que Ronsard, Dubellay, Maisonfleur et Brantôme lui posaient chaque jour sur la tête. Mais elle était prédestinée. Au milieu de ces fêtes qu'essayait de ressusciter la chevalerie mourante, arriva la fatale joute des Tournelles. Henri II, frappé d'un éclat de lance au défaut de sa visière, alla se coucher avant l'âge auprès de ses ancêtres, et Marie Stuart monta sur le trône de France, où, du deuil de Henri, elle passa à celui de sa mère, et du deuil de sa mère à celui de son époux. Marie ressentit cette dernière perte en femme et en poète. Son cœur se répandit en larmes amères et en plaintes harmonieuses. Voici les vers qu'elle fit alors. En mon triste et doux chant, d'un ton fort lamentable, je jette un deuil tranchant de perte incomparable, et en soupir cuisant passe mes meilleurs ans. Fût-il un tel malheur de dure destinée, ni si triste douleur de dame fortunée, qui mon cœur et mon œil voient en bière et cercueil, qui dans mon doux printemps et fleur de ma jeunesse, toutes les peines sent d'une extrême tristesse, et en rien n'est plaisir qu'en regret et désir. Ce qui m'était plaisant me devint peine dure, le jour le plus luisant est pour moi nuit obscure, et n'est rien si exquis qui de moi soit requis. J'ai au cœur et à l'œil un portrait, une image, qui figure mon deuil sur mon pâle visage, de violette teint, qui est l'amoureux teint. Pour mon mal étranger, je ne m'arrête en place, Mais j'en ai beau changer si ma douleur n'efface, car mon pis et mon mieux sont les plus déserts lieux. Si en quelque séjour, soit en bois, soit en pré, soit sur l'aube du jour ou soit sur la vesprée, sans cesse mon cœur sent le regret d'un absent. Si parfois vers les cieux viens adresser ma vue, le doux trait de ses yeux le vois en une nue. Si les baisse vers l'eau, vois comme en un tombeau. Si je suis en repos, sommeillant sur ma couche, joie qu'il me tient propos, je le sens qu'il me touche. En lambeur, en recroît, toujours est près de moi. Je ne vois autre objet, si beau qu'il se présente, à qui que soit sujet, on que mon cœur consente. Exempt de perfection à cette affection. Mes chansons ici fin à si triste complainte, dont sera le refrain « Amour vrai et non feinte », qui, pour séparation, n'aura diminution. C'était alors, dit Brantôme, qu'il faisait très beau la voir, car la blancheur de son visage luttait avec la blancheur de son voile à qui l'emporterait. Mais enfin, l'artifice de son voile perdait la partie, et la neige de son blanc visage effaçait l'autre. Car ce fut ainsi, ajoute-t-il, que, du moment où elle fut veuve, je la vis toujours en son pâle teint, tant j'eus l'honneur de la voir en France et en Écosse, où il lui fallut aller au bout de 18 mois, à son très grand regret, et après sa viduité, pour pacifier son royaume, fort divisé pour sa religion. Hélas, elle n'en avait pourtant ni envie ni volonté, et je lui ai vu dire souvent et appréhender comme mort ce voyage, car elle désirait 100 fois plus de demeurer en France simple douairière et se contenter de sa Touraine et de son Poitou pour douaire que d'aller régner là, en son pays sauvage. Mais messieurs ses oncles, au moins aucun, car non pas tous, l'en conseillèrent et même l'en pressèrent, qui se repentirent bien après de cette faute. Marie obéit, comme nous avons vu, et elle avait commencé son voyage sous de tels auspices qu'en perdant la terre de vue, elle pensa mourir. C'est alors que de cette âme toute poétique s'exhalèrent ces vers si connus. « Adieu, plaisant pays de France ! Ô ma patrie, la plus chérie, qui a nourri ma jeune enfance ! Adieu, France ! Adieu, mes beaux jours ! La nef qui disjoint nos amours n'a eu de moi que la moitié. Une part reste, elle est tienne. Je la fie à ton amitié pour que, de l'autre, il te souvienne. » Cette moitié d'elle-même que Marie laissait en France était le corps de son jeune roi qui avait emporté avec lui tout le bonheur de la pauvre Marie en sa tombe. Marie n'avait plus qu'un espoir, c'est que la vue d'une flotte anglaise forcerait sa petite escadre à retourner en arrière. Mais elle avait ses destins à accomplir. Un brouillard extraordinaire en cette saison d'été s'étendit ce jour même sur tout le détroit et la fit échapper à la croisière, car ce brouillard était si épais qu'on ne pouvait voir de la poupe aux mains. Il dura toute la journée du dimanche, qui était le lendemain du départ, et ne se leva que le lendemain lundi à 8 heures du matin. La petite flotte, qui pendant tout ce temps avait navigué au hasard, se trouva au milieu d'une telle quantité d'écueils que si le brouillard eût duré quelques minutes de plus, la galère eût certainement touché sur quelques rochers et eût péri comme le vaisseau qu'on avait vu s'abîmer en sortant du port. Grâce à cette éclaircie, le pilote reconnut les côtes de l'Écosse et, dirigeant avec une grande habileté ses 4 bâtiments à travers les récifs, il alla, le 20 août, prendre terre à Leith, où rien n'avait été préparé pour recevoir la reine. Néanmoins, à peine y fut-elle que les principaux de la ville se réunirent et vinrent la complimenter. Pendant ce temps, on rassemblait à la hâte quelques misérables bidets dont les harnais tombaient en lambeaux pour conduire la reine à Édimbourg. À cette vue, Marie ne put s'empêcher de pleurer encore, car elle pensait aux magnifiques palefrois et aux riches haquenets de ses chevaliers et de ses dames de France, et du premier coup, l'Écosse lui apparaissait dans toute sa misère. Le lendemain, elle devait lui apparaître dans toute sa férocité. après avoir passé au château d'Holyrood une nuit pendant laquelle, dit Brantôme, 500 à 600 marauds de la ville lui vinrent donner, au lieu de la laisser dormir, une aubade enragée sur de méchants violons et de petits rebecs, elle désira entendre la messe. Malheureusement, le peuple d'Édimbourg appartenait presque entièrement à la religion réformée, de sorte que, furieux de ce que la reine débutait par cette preuve de papisme, il entra de force dans l'église, armé de couteaux, de pierres et de bâtons, dans l'intention de mettre à mort le pauvre prêtre qui était son aumônier. Celui-ci quitta l'autel et se réfugia près de la reine, tandis que le frère de Marie, le prieur de Saint-André, qui avait plus de disposition dès cette époque à être soldat qu'ecclésiastique, saisit une épée et, se mettant entre le peuple et la reine, déclara qu'il tuerait de sa main le premier qui ferait un pas de plus. Cette fermeté, jointe à l'air digne et imposant de la reine, arrêta le zèle des nouveaux réformés. C'est que, comme nous l'avons dit, Marie était arrivée au milieu de toute l'ardeur des premières guerres religieuses. Zélée catholique, comme toute sa famille maternelle, elle inspirait aux Huguenots les craintes les plus graves. Aussi le bruit s'était-il répandu que Marie, au lieu d'aborder à Leith comme elle y avait été forcée par le brouillard, devait aborder à Aberdeen. Là, disait-on, elle aurait trouvé le comte de Huntley, l'un des pères restés fidèles à la religion catholique, et qui, après la famille des Hamilton, était le plus proche et le plus puissant allié de la famille royale. Secondée par lui et par 20 000 soldats du Nord, elle eut alors marché sur Édimbourg et rétablit la religion catholique par toute l'Écosse. Les événements ne tardèrent point à prouver que cette accusation était fausse. Marie aimait beaucoup, comme nous l'avons dit, le prieur de Saint-André, qui était fils de Jacques Saint et d'une noble descendante des comtes de Mar, qui avait été fort belle dans sa jeunesse et qui, malgré l'amour bien connu de Jacques V, pour elle et l'enfant qui en avait été le résultat, n'en avait pas moins épousé Lord Douglas de Lochleven, dont elle avait eu deux autres fils, l'aîné nommé Williams et le cadet George, lesquels se trouvaient ainsi les demi-frères du régent. Aussi, à peine remontée sur le trône, Marie avait rendu au prieur de Saint-André le titre de comte de Mar, qui était celui de ses ancêtres maternels, et comme celui de comte de Muret était vacant depuis la mort du fameux Thomas Randolph, Marie, dans son amitié fraternelle pour Jacques Stuart, ne tarda point à ajouter ce titre à ceux dont elle l'avait déjà décoré. Mais ici, la chose devenait plus difficile et plus compliquée, car le nouveau comte de Muret, avec le caractère qu'on lui connaît, n'était point homme à se contenter du titre sans les terres. Or, les terres, qui appartenaient à la couronne depuis l'extinction de la branche masculine des anciens comtes, avaient été peu à peu envahies par des voisins puissants, au nombre desquels se trouvait le fameux comte de Huntley, dont nous avons déjà parlé. Il en résulta que, comme la reine jugea que de ce côté, ses ordres pourraient bien éprouver quelque empêchement, elle se mit, sous prétexte de visiter ses possessions du Nord, à la tête d'une petite armée commandée par son frère, le comte de Mar et de Muret. Le comte de Huntley fut d'autant moins dupe du prétexte apparent de cette expédition que son fils, John Gordon, pour quelques abus de pouvoir qu'il avait commis, venait d'être condamné à un emprisonnement temporaire. Il n'en fit pas moins toutes les soumissions possibles à la reine, envoyant des messagers au-devant d'elle pour l'inviter à venir se reposer dans son château, et de sa personne suivant les messagers pour lui renouveler de vive voix son invitation. Malheureusement, au moment même où il joignait la reine, le gouverneur d'Inverness, qui était un homme à lui, refusait à Marie l'entrée de ce château, qui cependant était un château royal. Il est vrai que Muret, convaincu qu'il ne fallait pas marchander avec de pareilles rébellions, lui avait déjà fait trancher la tête comme coupable de haute trahison. Ce nouvel acte de fermeté prouva à Huntley que la jeune reine n'était pas disposée à laisser reprendre par les seigneurs ce pouvoir presque souverain abaissé par son père. De sorte que, malgré l'accueil plein de bienveillance qu'il a reçu, comme il apprit, étant au camp, que son fils, étant échappé de sa prison, venait de se mettre à la tête de ses vassaux, il craignait qu'on ne le crût, comme il l'était sans doute, complice de ce soulèvement, et partit dans la nuit même pour prendre le commandement de ses soldats, décidé, comme Marie n'avait pas avec elle plus de 7 à 8 000 hommes de troupes, à risquer le hasard d'une bataille, proclamant cependant, comme l'avait fait Buckler, dans sa tentative pour arracher Jacques V des mains de Douglas, que ce n'était point à la reine qu'il en voulait, mais seulement au régent, qui la tenait sous sa tutelle et faussait ses bonnes intentions. Murray, qui savait que souvent toute la tranquillité d'un règne dépend de la fermeté qu'on déploie dans ses commencements, convoqua aussitôt tous les barons du Nord, dont les terres étaient voisines des siennes, pour marcher contre Huntley. Tous obéirent, car la maison des Gordon était si puissante déjà que chacun redoutait qu'elle ne le devint encore davantage. Mais cependant, il était visible que, s'il y avait haine pour le vassal, il n'y avait pas grande affection pour la reine, et que la plupart étaient venus sans intentions arrêtées et avec le projet de se laisser conduire par les circonstances. Les deux armées se rencontrèrent près d'Aberdeen. Murray disposa aussitôt les troupes qu'il avait amenées d'Édimbourg et desquelles il était sûr, au sommet d'une éminence et disposant en échelon sur le penchant de la colline tous les alliés du Nord. Huntley s'avança résolument sur eux et attaqua les montagnards ses voisins qui, après une courte résistance, se retirèrent en désordre. Aussitôt, ses soldats jetèrent leurs lances et, tirant leurs épées en criant « Gordon ! Gordon !» Ils poursuivirent les fuyards et croyaient déjà avoir gagné la bataille lorsqu'ils vinrent se heurter tout à coup au corps d'armée de Murray qui demeura immobile comme un rempart de fer et qui, avec ses longues lances, eut bon marché de ses adversaires, armés seulement de leurs claymores. Alors ce fut aux Gordon de reculer à leur tour, ce que voyant, les clans du Nord se rallièrent et revinrent au combat, chaque soldat ayant, pour être reconnu de ses camarades, une branche de bruyère à sa toque. Ce mouvement inattendu décida de la bataille. Les montagnards roulèrent de la colline comme un torrent, entraînant tout ce qui aurait voulu s'opposer à leur passage. Alors Murray, voyant que le moment était venu de changer la défaite en déroute, donna avec toute sa cavalerie. Huntley, qui était très gros et très pesamment armé, tomba et fut écrasé sous les pieds des chevaux. John Gordon, fait prisonnier dans sa fuite, eut 3 jours après la tête tranchée à Aberdeen. Enfin, son frère, trop jeune pour subir en ce moment le même sort, fut enfermé dans un cachot et exécuté plus tard, le jour même où il eut 16 ans. Marie avait assisté à la bataille et le calme et le courage qu'elle avait montré avaient fait une vive impression sur ses sauvages défenseurs qui, tout le long de la route, lui avaient entendu dire qu'elle aurait voulu être homme pour passer ses jours sur un cheval, ses nuits sous une tente et pour porter une cotte de maille sur le corps, un casque sur la tête, un bouclier au bras et une large épée au côté. Marie fit son entrée à Édimbourg au milieu de l'enthousiasme général car cette expédition contre le comte de Huntley, qui était catholique, avait été très populaire parmi les habitants d'Édimbourg, qui ne se rendaient pas compte des véritables motifs qu'il avait fait entreprendre. Ils étaient réformés, le comte était papiste. C'était un ennemi de moins, voilà tout ce qu'ils avaient considéré. Aussi les Écossais, au milieu de leurs acclamations, exprimèrent-ils, soit de vive voix, soit par des requêtes écrites, le désir que leur reine, qui n'avait point eu d'enfant de François II, se remariât. Marie y consentit, et cédant au conseil prudent de ceux qui l'entouraient, elle résolut de consulter sur ce mariage Élisabeth, dont, en sa qualité de petite-fille de Henri VII, elle était l'héritière dans le cas où la reine d'Angleterre mourait sans postérité. Malheureusement, elle n'avait pas toujours agi avec une circonspection pareille, car à la mort de Marie Tudor, que l'on appelait la sanglante Marie, elle avait réclamé le trône de Henri VIII et, s'appuyant sur l'illégitimité de la naissance d'Élisabeth, avait pris avec le dauphin le titre de roi d'Écosse, d'Angleterre et d'Irlande et avait fait frapper des monnaies avec ce titre nouveau et ciselé de la vaisselle avec ses armoiries nouvelles. Élisabeth avait 9 ans de plus que Marie, c'est-à-dire qu'à cette époque, elle n'avait point encore atteint sa 30e année. Elle était donc sa rivale, non seulement comme reine, mais encore comme femme. Sous le rapport de l'éducation, elle pouvait soutenir la comparaison avec avantage, car si elle avait moins de charme dans l'esprit, elle avait plus de solidité dans le jugement. familière avec la politique, la philosophie, l'histoire, l'éloquence, la poésie et la musique. Outre l'anglais, sa langue maternelle, elle parlait et écrivait parfaitement le grec, le latin, le français, l'italien et l'espagnol. Mais supérieure sur ce point à Marie, Marie, à son tour, était plus belle et surtout plus séduisante que sa rivale. Élisabeth avait, il est vrai, l'extérieur majestueuse et agréable, des yeux vifs et brillants, le teint d'une blancheur éclatante, mais elle avait les cheveux roux, le pied grand et la main forte, tandis que Marie, au contraire, avec ses beaux cheveux blonds cendrés, son front noble et ouvert, ses sourcils, auxquels on ne pouvait reprocher que d'être si régulièrement arqués qu'on les aurait crus tracés au pinceau, ses yeux d'où ruisselait incessamment un filtre de flamme, son nez formé avec toute la précision des lignes grecques, sa bouche si vermeille et si gracieuse qu'il semblait que, comme une fleur ne s'ouvre que pour laisser échapper ses parfums, elle ne devait s'ouvrir, elle, que pour faire entendre de douces paroles, avec son cou blanc et gracieux comme celui du cygne, ses mains d'albâtre, sa taille de déesse et son pied d'enfant, formaient un ensemble auquel le statuaire le plus fanatique de la forme n'aurait su que reprocher. Ce fut là le grand et véritable crime de Marie. Une seule imperfection dans le visage ou dans la taille, et elle ne mourait pas sur l'échafaud. Aussi, cette beauté était-elle pour Élisabeth, qui ne l'avait jamais vue et qui, par conséquent, ne pouvait en juger que par ouï-dire, une grande cause d'inquiétude et de jalousie, qu'elle ne savait pas même dissimuler et qui se manifestait sans cesse par des questions et des impatiences. Un jour qu'elle causait familièrement avec Jacques Melville de la cause qui l'amenait à sa cour et qui était le patronage offert à Élisabeth par Marie Stuart pour le choix d'un époux, choix que la reine d'Angleterre avait paru désirer d'abord voir se fixer sur le comte de Leicester, elle conduisit l'ambassadeur écossais dans un cabinet de travail où elle lui montra plusieurs portraits avec des étiquettes écrites de sa propre main. Le premier était celui du comte de Leicester. Comme ce seigneur était justement le prétendant désigné par Élisabeth, Melville demanda ce portrait à la reine pour le faire voir à sa maîtresse. Mais Élisabeth le lui refusa en lui disant que c'était le seul qu'elle eût. Melville alors lui répondit en souriant qu'ayant l'original, elle pouvait bien se dessaisir de la copie, mais pour rien au monde, Élisabeth n'y voulut consentir. Cette petite discussion terminée, elle lui montra le portrait de Marie Stuart, qu'elle baisa fort tendrement, témoignant à Melville grande envie de voir sa maîtresse. « Cela est bien facile, madame, répondit celui-ci. Faites garder votre chambre, sous le prétexte que vous êtes indisposée, et partez incognito pour l'Écosse, comme a fait le roi Jacques V pour la France, lorsqu'il voulut voir Madeleine de Valois, qu'il épousa depuis. » Hélas, répondit Élisabeth, je le voudrais bien, mais cela n'est pas si facile que vous le croyez. Dites néanmoins à votre reine que je l'aime tendrement et que je veux que nous vivions plus amis que nous ne l'avons fait encore jusqu'à présent. Puis, passant à un sujet qu'elle paraissait depuis longtemps avoir envie d'aborder, voyons, Melville, continua-t-elle, dites-moi franchement, ma sœur est-elle aussi belle qu'on le dit ? Elle passe pour fort belle, répondit Melville, mais je ne puis en donner une idée à votre majesté, n'ayant pas de point de comparaison. Je vais vous en donner un, dit la reine. Est-elle plus belle que moi ? Madame, répondit Melville, vous êtes la plus belle de l'Angleterre et Marie Stuart est la plus belle de l'Écosse. Enfin, laquelle des deux est la plus grande ? Demanda Élisabeth, que cette réponse, si habile qu'elle fût, ne satisfaisait pas entièrement. « C'est ma maîtresse, madame, reprit Melville, je suis forcée de l'avouer. » « Alors elle l'est donc trop, dit aigrement Élisabeth, car je suis de la plus grande taille. » « Et, continua-t-elle, quels sont ses amusements favoris ?»« Madame, répondit Melville, c'est la chasse, l'équitation, le luth et le clavecin. » « Est-ce qu'elle est forte sur ce dernier instrument ?» demanda Élisabeth. « Mais oui, madame, dit Melville, assez forte pour une reine. » La conversation resta là. Mais comme Élisabeth était elle-même excellente musicienne, elle chargea Mylord Hudson d'introduire Melville chez elle au moment où elle serait à son clavecin, afin qu'il pût l'entendre jouer sans qu'elle eût cependant l'air de jouer pour lui. En effet, le même jour, Hudson, conformément à ses instructions, conduisit l'ambassadeur dans une galerie qui n'était séparée de l'appartement de la reine que par une tapisserie, de sorte que, l'introducteur l'ayant soulevé, Melville put entendre à loisir Élisabeth, qui ne se retourna que lorsqu'elle eut achevé le grand morceau, qu'elle était en train de jouer, au reste, avec beaucoup de talent. En apercevant Melville, elle feignit d'entrer dans une grande colère et voulut même le battre, mais cette colère se calma peu à peu devant les compliments de l'ambassadeur et finit par tomber lorsqu'il lui avoua que Marie Stuart n'était point de sa force. Mais ce n'était pas tout. Fière de ce triomphe, Élisabeth voulut encore que Melville la vît danser. En conséquence, elle retarda ses dépêches de 2 jours pour qu'il pût assister à un bal qu'elle donnait. Ces dépêches, comme nous l'avons dit, contenaient le désir que Marie Stuart épousât Leicester. Mais cette proposition ne pouvait être prise au sérieux. Leicester, dont le mérite personnel était d'ailleurs assez médiocre, était d'une naissance trop inférieure pour prétendre à la main de la fille de tant de rois. Marie répondit donc qu'une pareille alliance ne pouvait lui convenir. Sur ces entrefaites, il arriva à la cour une étrange et tragique histoire. Parmi les seigneurs qui avaient suivi Marie Stuart en Écosse, était, comme nous l'avons dit, un jeune gentilhomme nommé Châtelard, véritable type de la noblesse de cette époque, neveu de Bayard par sa mère, poète et chevalier, plein de talent et de courage, et appartenant au maréchal d'Anville, de la maison duquel il faisait partie. Grâce à cette position élevée, Châtelard avait, pendant tout le temps de son séjour en France, fait sa cour à Marie Stuart, qui n'avait jamais vu dans les hommages qu'il lui rendait envers autre chose que ses déclarations poétiques et galantes en usage à cette époque et dont, elle surtout, était chaque jour accablée. Or, il arriva que, vers le temps où Châtelard était le plus amoureux de la reine, elle fut, comme nous l'avons dit, forcée de quitter la France. Alors le maréchal d'Anville, qui ignorait la passion de Châtelard et que lui-même, encouragé par le bon accueil de Marie, s'était mis sur les rangs pour succéder comme époux à François II, partit pour l'Écosse avec la pauvre exilée, emmenant avec lui Châtelard, et ne s'imaginant point trouver un rival en lui, lui fit confidence de sa passion et le laissa près de Marie lorsqu'il fut forcé de la quitter, chargeant le jeune poète de maintenir auprès d'elle les intérêts de son amour. Cette charge de confident rapprocha donc encore Châtelard de Marie, et comme, en sa qualité de poète, la reine le traitait en frère, il s'enhardit dans sa passion au point de tout risquer pour obtenir un autre titre. En conséquence, il s'introduisit un soir dans la chambre de Marie Stuart et se cacha sous le lit. Mais au moment où la reine commençait à se déshabiller, un petit chien qu'elle avait se mit à japper avec une telle force que les femmes accoururent à ses aboiements et, suivant du regard la direction qu'ils indiquaient, aperçurent Châtelard. Une femme pardonne facilement un crime dont trop d'amour est l'excuse. Marie Stuart était femme avant d'être reine, elle pardonna. Mais cette bonté ne fit qu'augmenter la confiance de Châtelard. Il attribua la réprimande qu'il avait reçue à la présence des femmes de la reine et supposa que, si elle eût été seule, elle lui eût pardonné plus complètement encore. De sorte que, 3 semaines après, cette même scène se renouvela. Mais cette fois, Châtelard, surpris dans une armoire quand la reine était déjà couchée, fut remise aux mains des gardes. Le moment était mal choisi. Un pareil scandale, au moment où la reine allait se remarier, était fatal à Marie s'il n'était fatal à Châtelard. Murray prit en main l'affaire et, pensant qu'un procès public pourrait seul sauver la réputation de sa sœur, il poussa l'accusation avec tant de vigueur que Châtelard, convaincu du crime de lèse-majesté, fut condamné à mort. Marie fit quelques instances près de son frère pour que Châtelard fût renvoyé en France, mais Murray lui fit voir quelles terribles conséquences pourrait avoir un pareil emploi de son droit de grâce, de sorte que Marie fut forcée de laisser la justice poursuivre son cours. Châtelard fut conduit au supplice. Arrivé sur l'échafaud qui était dressé devant le palais de la reine, Châtelard, qui avait refusé l'aide d'un prêtre, se fit lire l'ode de Ronsard sur la mort. Et lorsque la lecture, qu'il suivit avec un plaisir évident, fut terminée, il se tourna vers les fenêtres de la reine et, s'étant écrié une dernière fois « Adieu, la plus belle et la plus cruelle princesse du monde !» il tendit son cou à l'exécuteur sans manifester aucun repentir ni pousser aucune plainte. Cette mort impressionna d'autant plus la reine qu'elle n'osa y compatir ouvertement. Pendant ce temps, le bruit s'était répandu que la reine d'Écosse consentait à un nouveau mariage et plusieurs prétendants se présentèrent qui étaient issus des premières maisons souveraines d'Europe. Ce fut d'abord l'archiduc Charles, troisième fils de l'empereur d'Allemagne, puis le prince héréditaire d'Espagne, Don Carlos, le même qui fut mis depuis à mort par son père, puis le duc d'Anjou, qui devint ensuite Henri III. Mais épouser un prince étranger, c'était renoncer à ses droits sur la couronne d'Angleterre. Marie refusa donc, et se faisant honneur de ce refus auprès d'Élisabeth, elle jeta les yeux sur un parent de cette dernière, nommé Henri Stuart, Lord Darnley, et qui était fils du comte de Lennox. Élisabeth, qui ne pouvait rien dire de plausible contre ce mariage, puisque la reine d'Écosse choisissait non seulement un Anglais pour époux, mais encore prenait cet époux dans sa propre famille, permit au comte de Lennox et à son fils de se rendre à la cour d'Écosse, se réservant, si les affaires lui paraissaient prendre une tournure sérieuse, de les rappeler tous deux auprès d'elle, ordre auquel ils seraient bien forcés d'obéir, puisque tous leurs biens étaient en Angleterre. Darnley avait 18 ans. Il était beau, bien fait, élégant. Il possédait ce séduisant jargon des jeunes seigneurs de la cour de France et d'Angleterre que Marie avait cessé d'entendre depuis son exil en Écosse. Elle se laissa prendre à ses apparences et ne s'aperçut point que, sous cette écorce brillante, Darnley cachait une nullité profonde, un courage équivoque et un caractère changeant et brutal. Il est vrai de dire qu'il était arrivé jusqu'à elle sous les auspices d'un homme dont l'influence était aussi singulière que l'élévation même qui lui donnait l'occasion de l'exercer. Nous voulons parler de David Rizzio. David Rizzio, qui a joué un si grand rôle dans la vie de Marie Stuart et dont la faveur étrange a donné, sans cause probable, à ses ennemis de si cruelles armes contre elle, était le fils d'un musicien de Turin chargé d'une nombreuse famille qui, lui reconnaissant un goût prononcé pour la musique, lui avait appris les principes de cet art. À l'âge de 15 ans, il avait quitté la maison paternelle et s'était rendu à Pie à Nice, où le duc de Savoie tenait sa cour. Là, il était entré au service du duc de Moreto, et ce seigneur ayant été nommé quelques années après à l'ambassade d'Écosse, Rizzio le suivit dans ce royaume. Comme ce jeune homme avait une fort belle voix et jouait sur la viole et le rebec des chansons dont il composait les airs et les paroles, l'ambassadeur en parla à Marie qui désira le voir. Rizzio, plein de confiance en lui-même, voyant dans ce désir de la reine un moyen de parvenir, s'empressa de se rendre à son ordre, chanta devant elle et lui plut. Elle le demanda alors à Moreto sans plus d'importance qu'elle n'en eût mis à lui demander un chien de race ou un faucon bien dressé. Moreto le lui donna, enchanté de trouver cette occasion de lui faire sa cour. Mais à peine fut-il à son service que Marie s'aperçut que la musique était le moindre de ses talents et qu'il avait, outre cela, une instruction sinon profonde, du moins variée, l'esprit souple, l'imagination vive, les manières douces, et en même temps beaucoup de hardiesse et de suffisance. Il lui rappelait ces artistes d'Italie qu'elle avait vus à la cour de France, et lui parlait la langue de Marot et de Ronsard, dont il savait par cœur les plus belles poésies. C'était plus qu'il n'en fallait pour plaire à Marie Stuart. En peu de temps, il devint son favori, et sur ses entrefaites, la place de secrétaire des dépêches françaises étant venue à vaquer, Rizzio en fut pourvu. Darnley, qui voulait réussir à tout prix, mit donc Rizzio dans ses intérêts, ignorant qu'il n'avait pas besoin de cet appui. Et comme, de son côté, Marie, qui, à la première vue, s'était prise d'amour pour lui, craignant quelque nouvelle intrigue d'Élisabeth, hâtait autant que les convenances le permettaient cette union, les choses allèrent avec une merveilleuse rapidité, et au milieu de la joie publique, avec l'approbation de la noblesse, moins une faible minorité à la tête de laquelle était Muret, le mariage fut célébré le 29 juillet 1565 sous les plus heureux auspices. La Surveille, Darnley et le comte de Lennox, son père, avaient reçu l'ordre de retourner à Londres. Et comme ils n'avaient pas obéi, 8 jours après la célébration du mariage, ils apprirent que la comtesse de Lennox, la seule personne de leur famille qui fût restée au pouvoir d'Élisabeth, avait été arrêtée et conduite à la tour. Ainsi, Élisabeth, malgré sa dissimulation, cédant à ce premier mouvement de violence qu'elle avait toujours si grande peine à vaincre, venait de mettre à jour tous ses ressentiments. Cependant, Élisabeth n'était point femme à se contenter d'une vengeance inutile. Aussi, elle relâcha bientôt la comtesse et tourna les yeux vers Muret, le plus mécontent des lords de l'opposition et qui perdait à ce mariage toute son influence personnelle. Il ne fut donc pas difficile à Élisabeth de lui mettre les armes à la main. Effectivement, après avoir échoué dans une première entreprise qu'il fit pour s'emparer de Darnley, il appela à lui le duc de Châtellerault, Glencairn, Argyll et Roth, et, rassemblant ce qu'ils purent de partisans, ils se mirent en révolte ouverte contre la reine. Ce fut là le premier acte ostensible de cette inimitié qui fut depuis si fatale à Marie. La reine, de son côté, fit un appel à sa noblesse, qui se hâta d'y répondre et de se ranger autour d'elle, de sorte qu'au bout d'un mois, elle se trouve entourée de la plus belle armée que jamais roi d'Écosse ait levée. Darnley se mit à la tête de cette magnifique assemblée, monté sur un superbe cheval, couvert d'une armure dorée, et accompagné de la reine, qui, vêtue en amazone et des pistolets à l'arçon de sa selle, voulut faire cette campagne avec lui pour ne pas le quitter d'un instant. Tous deux étaient jeunes, tous deux étaient beaux, et ils sortirent d'Édimbourg au milieu des acclamations du peuple et de l'armée. Muret et ses complices n'essayèrent pas même de tenir, et la campagne se passa en marches et contre-marches, si rapides et si compliquées qu'on appela cette insurrection « Run About Raid », c'est-à-dire la course en tous sens. Muret et les rebelles se retirèrent en Angleterre, où Élisabeth, tout en paraissant blâmer leur échauffourée, leur fit passer tous les secours dont ils avaient besoin. Marie revint à Édimbourg, toute joyeuse du succès des 2 premières campagnes qu'elle avait faites, ne se doutant pas que cette nouvelle faveur de la fortune était la dernière qu'elle dût en recevoir, et que là s'arrêtaient ses courtes prospérités. En effet, bientôt elle s'aperçut qu'elle s'était donnée, dans Darnley, non pas, comme elle l'avait cru, un époux galant et empressé, mais un maître impérieux et brutal, qui, n'ayant plus aucun motif de se cacher aux yeux de sa femme, se montra tel qu'il était, c'est-à-dire plein de vices honteux, parmi lesquels l'ivrognerie et la débauche étaient les moindres. Aussi, de graves différends ne tardèrent-ils point à éclater dans ce royal ménage. Darnley, en épousant Marie, n'était pas devenu roi, mais seulement mari de la reine. Il fallait, pour lui conférer une autorité à peu près égale à celle d'un régent, que Marie lui accorda ce qu'on appelait la couronne matrimoniale, couronne que, pendant sa courte royauté, avait portée François II, et que Marie, d'après la conduite de Darnley à son égard, n'avait aucunement l'intention de lui accorder. Aussi, quelques instants ce qu'il fit et sous quelque forme qui les enveloppa, Marie n'y répondit-elle que par un refus constant et obstiné. Darnley, étonné de cette force de volonté dans une jeune reine qu'il avait aimée au point de l'élever jusqu'à elle, et ne croyant point qu'elle l'appuisât en elle-même, chercha autour d'elle quel conseiller secret et influent pouvait la lui inspirer. Ses soupçons se fixèrent sur Rizzio. En effet, à quelque cause, et ce point, chez les historiens les plus clairvoyants, est constamment resté obscur, que Rizzio dut son influence, soit qu'il commandât comme amant, soit qu'il conseillât comme ministre, ses avis, tant qu'il vécut, furent toujours donnés pour la plus grande gloire de la reine. Parti de si bas, il voulait au moins se montrer digne d'être arrivé si haut, et devant tout à Marie, il essayait en dévouement de lui rendre tout ce qu'il lui devait. Darnley ne s'était donc pas trompé, et c'était bien Rizzio qui, désespéré d'avoir été pour quelque chose dans une union qu'il prévoyait devoir devenir si malheureuse, donnait à Marie le conseil ne d'abandonner aucune partie de son pouvoir à celui qui possédait déjà beaucoup plus qu'il ne méritait en possédant sa personne. Darnley, comme tous les hommes d'un caractère à la fois faible et violent, niait chez les autres la persistance de la volonté, si cette volonté n'était pas soutenue par une influence étrangère. Il crut donc qu'en se débarrassant de Rizzio, il ne pouvait manquer de gagner sa cause, puisque lui seul, pensait-il, s'opposait à ce que cette couronne matrimoniale, objet ardent de ses désirs, lui fût accordée. En conséquence, comme Rizzio était d'autant plus haï de la noblesse qu'il s'était élevé au-dessus d'elle par son propre mérite, il ne fut pas difficile à Darnley d'organiser un complot, et James Douglas de Morton, chancelier du royaume, consentit à en être le chef. C'est la seconde fois depuis le commencement de ce récit que nous écrivons ce nom de Douglas, si souvent prononcé dans l'histoire d'Écosse, et qui, à cette époque, éteint dans la branche aînée, que l'on appelait les Douglas noirs, se perpétuait dans la branche cadette, que l'on appelait les Douglas roux. C'était une antique, noble et puissante famille qui, lorsque la descendance mâle de Robert Bruce avait disparu, disputa la royauté au premier des Stuarts, et qui, depuis ce temps, avait constamment côtoyé le trône, tantôt son soutien, tantôt son ennemi, jalousant toute grande maison, car toute grandeur lui portait ombrage, et surtout celle des Hamilton, qui, sinon son égale, était du moins la plus puissante après elle. Pendant tout le règne de Jacques V, grâce à la haine que leur portait le roi, les Douglas avaient non seulement perdu toute leur influence, mais encore ils avaient été exilés en Angleterre. Cette haine venait de ce qu'ils s'étaient emparés de la tutelle du jeune prince et l'avaient gardé prisonnier jusqu'à l'âge de 15 ans. Alors, avec l'aide d'un de ses pages, Jacques V s'était sauvé de Falkland et avait gagné Stirling, dont le gouverneur était dans ses intérêts. Puis, à peine arrivé dans ce château, il avait fait proclamer que tout Douglas qui en approcherait à 12 000 de distance serait poursuivi comme coupable de haute trahison. Ce ne fut pas tout. Il obtint un arrêt du Parlement qui les déclara coupables de forfaiture et les condamna à l'exil. Ils demeurèrent donc proscrits tant que le roi vécut et ne rentrèrent en Écosse qu'à sa mort. Il en résultait que, quoiqu'ils eussent été rappelés autour du trône et qu'ils y occupassent grâce à l'influence qu'avait eue Murray, qui, on se le rappelle, était Douglas par sa mère, les emplois les plus importants, ils n'avaient point pardonné à la fille la haine que leur portait le père. Voilà pourquoi Jacques Douglas, tout chancelier du royaume qu'il était, et par conséquent chargé de faire exécuter les lois, se mit à la tête d'un complot qui avait pour but la violation de toutes les lois divines et humaines.